La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée au prix Nobel hongrois de littérature, disparu en mars dernier, Imre Kertész. Mourir une fois pour continuer à vivre, c'est ainsi que Kertész résumait le chemin que son destin avait dû emprunter. Et s'il est vrai que sa vie lui a échappé le jour où les nazis l'ont envoyé en déportation, il n'a pas fait le choix de se donner la mort, au contraire de beaucoup d'autres survivants, Celan, Améry, Borowski, Primo Levi. Car les déportés n'ont pas manqué au XXe siècle, en Allemagne, en Pologne, en Union soviétique, et certains de ceux qui ont survécu ont choisi de témoigner. C'est pourquoi nous avons voulu élargir la problématique de cette semaine à d'autres écrivains de la déportation afin de comprendre ce qui les relie ou les sépare, et en particulier cette langue des camps qui est en soi un langage spécifique. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Luba Jürgensson, femme de lettres d'origine estonienne et de culture russe, installée en France depuis 1975 et qui a publié en 2003 un essai qui fait référence, intitulé « L'expérience concentrationnaire est-elle indicible ?» C'était aux éditions du Rocher. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
J'ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pourquoi j'écrivais ne m'intéressaient pas. Une seule question me travaillait. Qu'avais-je encore en commun avec la littérature? Car il était clair qu'une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne, comme tant d'autres choses, s'appelle Auschwitz. À propos d'Auschwitz, on ne peut écrire qu'un roman noir, ou, sauf votre respect, un roman feuilleton dont l'action commence à Auschwitz et dure jusqu'à nos jours. Je veux dire par là qu'il ne s'est rien passé depuis Auschwitz qui est annulé Auschwitz, qui est réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l'Holocauste n'a jamais pu apparaître au passé.
Bonjour Luba Jürgensson.
Bonjour.
Une seule question travaille Imre Kertész, dit-il, celle de savoir ce qu'il a en commun avec la littérature. Mais en même temps, pourquoi est-ce que ce ne serait pas de la littérature, Imre Kertész?
Mais Imre Kertész, c'est de la littérature. Et
Alors pourquoi se pose-t-il cette question?
Voilà, pourquoi c'est plutôt ça, je crois, qu'il faudrait se demander. Mais je pense que ça vient du fait que Kertész s'interroge sans cesse sur ce qu'est la littérature et que tous ses textes, en même temps qu'il mette en scène son expérience du camp, où chaque fois qu'il met en scène son expérience du camp, il met également en scène les procédés littéraires qui lui permettent de configurer cette expérience du camp. Donc Imre Kertész fait partie de ces écrivains qui réfléchissent tout autant sur la façon de reconstruire cette mémoire. Je pense qu'il formulerait pas la question, ni la réponse comme ça. Il s'interroge sans cesse sur les dispositifs littéraires. Et donc, je crois qu'il appartient à cette s'il faut le classer dans une mouvance, il appartient à ces écrivains qui mettent en place un processus aussi réflexif sur la littérature.
Donc c'est ça le cœur de son œuvre, selon vous, c'est ce processus réflexif sur qu'est-ce que c'est au fond que la littérature?
Qu'est-ce que c'est au fond que la littérature? Qu'est-ce que écrire? Et comment j'écris? Donc il y a certains de ses livres, comme par exemple Le Refus, qui commence avec des interventions presque obsessives du narrateur qui, au fur et à mesure, qui dresse le décor du texte en train de se construire, raconte comment il tresse ce décor et en vertu de quoi voilà, par quels moyens on construit le décor. Donc le lecteur assiste, le lecteur et reçoit cette scène par petits bouts. C'est une sorte de puzzle qu'il doit reconstruire lui-même avec le narrateur à ses côtés pour l'aider à la construire.
Puis il y avait peut-être une volonté un petit peu de dérouter aussi chez Kertész en posant ces questions-là.
Chez Kertész, il y avait certainement, bon, je ne suis peut-être pas très bien placée pour parler des intentions de Kertész, même si je pense que Clara Royer a pu reconstituer une partie de cette genèse des textes. Il est certain que Kertész trouve sa voix parce que il ne commence pas son expérience littéraire par son expérience d'Auschwitz. Hein. Au contraire, il la fuit. Enfin, il fait partie de ces témoins qui ont commencé tardivement qui sont venus tardivement au thème du camp. Et donc il y a toute une élaboration, mais aussi un refus. Hein. C'est le refus, c'est pas simplement le refus des éditeurs ou le refus le titre du livre, ni seulement le refus de l'écrivain de se conformer au verdict des éditeurs, c'est aussi le refus, le fait de repousser le moment où il faudra parler de cette expérience. Et finalement, c'est la rencontre avec des écrivains comme Camus, c'est-à-dire avec la dimension absurde de la littérature qui va lui permettre de raconter cette expérience. Donc, c'est peut-être pas tant la volonté de déstabiliser et de choquer que la découverte d'une littérature qui déconstruit le processus littéraire. Je crois qu'avec Kertész, voilà, si pose la question suis-je un écrivain et pourquoi, m'insérer dans cette communauté de l'écriture, c'est parce qu'il est constamment dans la déconstruction du processus littéraire lui-même.
Alors Luba Jorgensen, l'expérience concentrationnaire est-elle indicible ? Vous placez en exergue de votre essai qui a ce titre une citation de Chalamov qui dit « Comment raconter ce qui ne peut être raconté ? Impossible de trouver les mots. Mourir aurait été plus simple. » Mourir aurait été plus simple.
Oui, c'est une phrase très forte de Chalamov qui est... qui peut-être parmi ceux qui ont le plus explicité, le plus exploré, quand je dis le plus, c'est dans beaucoup de textes. D'ailleurs, il y aurait des parentés aussi, des comparaisons à faire entre les deux. Donc Chalamov pose cette question, et cette question recouvre aussi ce qui justement fait rupture, ce qui fait lacune dans l'expérience du camp, à savoir comment, dans quelle langue m'adresser au lecteur, hein, dans quelle langue m'adresser au lecteur, c'est-à-dire si je m'adresse à lui dans la langue du camp, il ne va rien comprendre parce que c'est une langue réduite à quelques vocables.
On va parler longuement de ce que c'est que la langue du camp.
Mais si je fais ça, mon œuvre manque son but. Il n'y aura pas de transmission. Mais si donc il faut que je lui parle dans sa langue à lui. Mais si je lui parle dans sa langue à lui, d'une certaine façon, ce sera inauthentique. Et donc Chalamov met ainsi, à peu près à la même époque que Kertész d'ailleurs, mais pour une autre expérience, celle du Goulag, met ainsi le doigt sur cette question de la reconstruction, c'est-à-dire, et c'est là qu'on peut peut-être faire un parallèle entre les deux, c'est-à-dire l'un comme l'autre sont parfaitement conscients du fait que tout récit sur cette expérience est une reconstruction, c'est-à-dire Kertész n'est pas du tout dans l'illusion d'un geste archéologique qui permettrait de retrouver à sa base un souvenir conservé. Voilà, comme une photographie. C'est-à-dire, il ne croit pas
quelque chose qui relèverait de la vérité entre guillemets.
Il ne croit pas à cette dimension photographique de la mémoire qui restituerait, en quelque sorte, comme des ruines, comme une Atlantide émergée. Et du coup, tout récit est forcément une reconstruction, ne serait-ce que parce que dans la vie de Kertész comme dans la vie de Chalamov, il y a ce passage par l'extrême épuisement, bon, qui qui était désigné dans les camps nazis par le terme de musulman et dans les camps soviétiques de Dradiag. Et donc c'est un état dans lequel le sujet n'est pas présent à lui-même. Donc déjà, voilà, il ne peut pas dire, il ne peut pas restituer sa perception à la première personne. Il ne peut pas dire, il m'arrive, enfin, je vis cela. Hein. Il peut à la rigueur dire, il m'arrive quelque chose. Mais même ça, même ce il m'arrive, hein, cette mention du jeu, est impossible. Donc elle est récupérée rétrospectivement dans une reconstruction.
Et est-ce que cette idée-là, elle est partagée par la majorité des écrivains qui racontent leur expérience concentrationnaire, ou est-ce que on peut faire des différences, des groupes entre différents types d'écrivains ayant vécu cette expérience?
Je pense que dans la pratique, elle est partagée par tous ceux, mais là encore, on entre dans un domaine très, très difficile. Comment savoir qui est écrivain et qui ne l'est pas, et qui le décide et qui donne un témoin, le statut d'écrivain. Mais je pense que tous ceux dont nous parlons d'eux parce qu'ils ont fait œuvre et que nous les lisons aussi comme des écrivains, sont bien sûr conscients de ce phénomène, mais certains le mettent en scène. Mettent en scène cette problématique-là, c'est-à-dire lui donnent dans leur œuvre une place et d'autres non. Et Kertész, comme Chalamov, font partie de ceux qui éclairent véritablement cette question de manière différente pour chacun. Kertész recourt à la notion de fiction, Chalamov à la notion de document, mais finalement, l'un comme l'autre parle de reconstruction.
Mais qu'est-ce qui est impossible pour eux de parler d'autre chose, et pourquoi font-ils autant attention à parler de fiction ou de documents? En quoi est-ce que ça les brûle, parce que c'est ça quasiment, de considérer qu'il ne s'agit pas soit de fiction, soit de documents?
Je pense que chacun à sa façon cherche aussi, parce que il faut, je crois que pour comprendre cela, il faut aussi se tourner vers le contexte de l'écriture et voir que, et c'est pour ça qu'ils sont des écrivains, voir que chacun à sa façon cherche sa place dans le processus littéraire, cherche à instaurer, à gagner sa place dans la littérature.
Donc là, on parle plus des camps, on parle du moment où ils écrivent, en fait.
Oui, on parle du moment où ils écrivent, de leur présent. Parce que leur camp s'écrit toujours avec le présent de l'écriture. C'est évidemment du passé, mais c'est un passé qui s'écrit dans le présent. Et on ne peut pas comprendre l'écriture si on ne tient pas compte de ce présent et de ce que ce présent leur apporte. Donc il faudra effectivement... Kertész écrit ses textes dans la Hongrie socialiste, mais voilà, il a découvert, il cherche justement à entrer dans la littérature mondiale et pas dans cette littérature socialiste. Donc il y a cette volonté de pour des écrivains dont l'identité est en grande partie définie par le camp, de sortir de ça, de ne pas être enraciné dans le camp et de se faire une place d'écrivain dans la littérature de leur temps.
Je peux l'affirmer. Une expérience, si grande soit-elle, nulle sérénité, si parfaite soit-elle, nul discernement, si fort soit-il, nous empêcherons apparemment de tenter une dernière fois notre chance, à condition de trouver le moyen de le faire naturellement. Ainsi, lorsqu'avec tous ceux qu'on ne pouvait visiblement plus vraiment espérer remettre au travail sur place, je fus en quelque sorte renvoyé à l'expéditeur à Buchenwald. Je fis part aux autres de ma joie avec les moyens qui me restaient, naturellement, car je m'étais rappelé soudain les beaux jours que j'y avais passés, et en particulier les soupes du matin. Mais je ne pensais pas, je le reconnais, qu'il faudrait d'abord y arriver, et ce, en train, avec toutes les contraintes qu'un tel voyage supposait. Quoi qu'il en soit, je peux dire qu'il y avait des choses que je n'avais jamais comprises jusqu'alors, et j'aurais même eu peine à croire. Par exemple, une expression qu'on entendait souvent autrefois, la dépouille mortelle, avait désigné jusqu'alors dans mon esprit exclusivement une personne décédée. Cependant, pour ma part, il n'y avait aucun doute à ce sujet. J'étais en vie, et en moi, brûlait encore, vacillante, certes, comme en veilleuse, quelque chose, la flamme de la vie, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait là mon corps. Je savais tout à son propos avec précision, sauf que moi-même, je n'étais plus dedans, en quelque sorte. Je constatais sans difficulté que cette chose était couchée là, avec, à côté et au-dessus, d'autres choses semblables, sur la paille froide et mouillée par divers liquides suspects qui recouvraient le plancher caoutant du wagon, que mon pansement en papier s'était effrité, effiloché, arraché depuis longtemps, que la chemise, le pantalon de détenu qu'on m'avait donné pour la route, collé à mes plaies ouvertes, et tout cela ne me touchait pas, ça ne m'intéressait pas, n'avait pas d'influence sur moi. Je peux même affirmer qu'il y avait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi léger, paisible, presque rêveur, je dirais tout net, aussi bien.
Un extrait d'Être sans destin, lu par Maurice Benichoux. Qu'est-ce que vous voyez, Luba Jorgensen, dans cet extrait? Qu'est-ce que vous en retenez?
Eh bien, voilà, je pense que c'est, on peut reprendre ces mots « je n'étais plus dedans » pour conclure ce qu'on disait tout à l'heure. Comment restituer cet état où on n'était plus dedans, alors que toute la littérature est basée sur le « on était dedans hein. ». Donc je pense que Kertész s'empare de cette absence, de cette absence à soi, comme matrice littéraire.
Alors parlons justement de cette langue des camps, qui est une langue spécifique et qui correspond seulement à cet état d'être dans le camp. Est-ce que vous pourriez d'abord, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit, nous la qualifier et nous dire en quoi la langue des camps, ça n'est pas la langue ensuite de l'écriture, et ça n'est pas non plus d'ailleurs la langue de l'extérieur, ça n'est pas la langue que nous employons, vous et moi, aujourd'hui, parce que nous ne parlerions pas comme ça si nous étions dans un camp. Et les mots que nous prononcerions n'auraient pas la même signification.
Bon, mettons-nous déjà d'accord donc sur le fait que nous ne parlons pas, là, en ce moment, des différents jargons qui ont pu naître dans les camps, de ces... Bon, Primo Levi a magistralement décrit cette Babel des camps, par exemple, des camps nazis, et d'autres ont décrit le jargon des camps soviétiques, bon, qui était très spécifique. Donc on ne parle pas du vocabulaire spécifique des camps, mais on parle plutôt de ce que les mots, du poids des mots dans les camps. Alors je pense qu'on avait là un exemple sur la dépouille mortelle, c'est-à-dire les mots prennent un autre sens. D'abord, il devient dans cet état d'être décrit dans le texte qui a été décrit dans le texte qu'on vient d'entendre. Cet état correspond aussi à un appauvrissement, un très grand appauvrissement lexical, voire le mutisme.
On ne parle plus que de ce qui est nécessaire.
C'est-à-dire que les musulmans, je crois qu'ils ne parlent plus du tout. Hein. Mais le détenu qui est encore en état de parler, il va parler, effectivement, il va surtout parler de choses... qui constitue la vie du camp.
Mais, et donc, quand on dit « il pleut » dans les camps, alors, ça ne veut pas dire la même chose que «
voilà, bah, c'est il y a un très beau texte de Charlotte Delbault là-dessus, où elle parle de la soif, où elle raconte un épisode où elle a eu terriblement soif à Auschwitz, et ensuite elle a bu un seau d'eau entier, et a été sauvée grâce à ça. Et lorsque, après son retour, il lui arrivait de dire « j'ai soif », c'est là qu'elle mesurait... l'abîme qui séparait ce « j'ai soif de notre vie ordinaire », du « j'ai soif du camp ». De même, Primo Levi, lorsqu'il parlait de la phrase « j'ai faim », quand il a essayé d'expliquer aux élèves que leur « j'ai faim », quand ils ont sauté un repas, ce n'est pas le même « j'ai faim » que celui d'un détenu. Donc, les mots sont les mêmes, mais ces mots ne signifient pas la même chose, puisque chaque mot, en fait... désigne immédiatement la vie et la mort. Donc on est immédiatement en contact avec la mort
à
travers les mots.
Donc il y a une densité dans le mot qui est beaucoup plus forte.
Il y a une densité extraordinaire. Et je pense à cette phrase de Robert Antelme qui qui, à son retour, lorsqu'il écrivait L'espèce humaine, a parlé aussi du fait qu'il devait choisir ses mots pour écrire. Et il a commenté ça en disant « Dans l'enfer, on dit tout ». C'est-à-dire qu'on ne fait pas le choix, on ne choisit pas ses mots. On dit tout ce qui se dit, c'est-à-dire c'est comme si c'était une langue, une sorte de langue complète qui pouvait recouvrir toutes les significations possibles du monde. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la littérature a toujours été, pas seulement la littérature, même le langage courant, on dit tout le temps « Ah, je ne sais pas comment le dire, ah ça, je n'arrive pas à l'exprimer, les mots me manquent pour dire ceci ou cela. » Et on a l'impression que dans le camp, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le langage a été amputé de son incomplétude, et que c'est une violence faite au langage que de lui avoir ôter cette part de non-dit, de cette impossibilité de dire.
Une citation de Primo Levi à ce sujet. « Si les lagueurs avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle, celui qui nous manque pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent à une température au-dessous de zéro, avec pour tout vêtement une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la faim est proche. »
Oui, oui. D'ailleurs, les camps soviétiques qui ont duré 70 ans ont produit un langage, mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut pour enfin celui qui décrit son expérience doit revenir à une langue dans laquelle peut-être que c'est l'héritage romantique aussi de cette cette impossibilité de dire les choses. Donc, il faut revenir à une langue qui ne peut pas rendre compte de tout. Et donc, travailler cette lacune, justement, qui est inhérente au fait même d'utiliser une langue.
Ce qui est passionnant aussi dans ce que vous dites, Luba Jorgensen, c'est que cette langue des camps, elle a des conséquences qui sont proprement littéraires pour les écrivains qui veulent raconter ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment utiliser les mots qu'ils utilisaient dans le camp, puisque ces mots-là, une fois qu'ils passent à l'extérieur, ces mots-là sont démonétisés. Donc, on ne peut pas écrire dans cette langue qui devient une langue spécifique et une langue incompréhensible. Et donc, on en arrive même à parler de traduction, traduire la langue du camp en une autre langue, qui est la langue du témoignage.
Oui, je pense qu'on peut effectivement lire ça en termes de traduction. Kertész le pense aussi en termes de fiction. En termes de fiction, c'est-à-dire le fait de relater ce qui s'est passé. Bon, déjà, c'est tellement...
Donc c'est peut-être pour ça qu'il insiste autant justement sur ce terme-là de fiction, qu'il est en train de traduire ce qu'il a vécu en autre chose, en une langue qui est communicable et qui peut être comprise par les lecteurs.
Peut-être qu'on peut le citer lorsqu'il dit que ce souvenir, c'est recréer une part de monde. Donc ça, c'est dans le dossier K, c'est donc son interlocuteur qui lui parle de ça. Kertész répond, je vais aller droit à la citation qui nous intéresse. chaque détail de... Oula. Chaque détail, je pense que ça marche plus, si ?
Ah, je ne sais pas, je crois que ça fonctionne toujours.
D'accord. C'est, chaque détail de la fiction est une invention de l'auteur, chaque élément. Et puis son interlocuteur lui dit, mais tu ne veux tout de même pas dire que tu as inventé Auschwitz. Et pourtant, en un certain sens, c'est exactement cela. Dans le roman, il m'appartenait d'inventer et de créer Auschwitz. Je ne pouvais pas m'appuyer sur des faits historiques extérieurs au roman. Tout devait naître de manière hermétique, par magie, par la magie de la langue, de la composition. Essaie de considérer le livre de ce point de vue. Dès les premières phrases, tu sens que tu entres dans un monde bizarre, souverain, où tout, plus précisément, n'importe quoi peut arriver. Et c'est un monde, voilà, le monde des camps est caractérisé justement par le fait qu'il peut arriver, que tout peut y arriver d'un instant à l'autre, on peut être tué d'un instant à l'autre. Et c'est un monde tellement... bizarre, dit Kertész, ou d'autres ont utilisé le terme de fantastique, hein, que finalement, on ne peut le comprendre, ça n'entre pas dans la notion de réel telle que là, l'individu normal qui n'est pas passé par les camps. Et donc, on est déjà sorti du réel, parce que finalement, enfin, si on utilise la formule hegelienne, tout le réel est rationnel, on n'est pas dans le rationnel. Et donc, on est en quelque sorte en dehors du réel, et pour rendre cette expérience intelligible, finalement, la fiction peut se révéler, enfin, la fiction telle que mais en œuvre Kertész, la pratique Kertész, parce que ça ne veut pas du tout dire qu'il remet en cause la vérité factuelle de ce qui lui est arrivé. Hein. Mais c'est le fait même de restituer ce qui lui est arrivé qui est déjà de la fiction.
Et vous, Lua Jorgensen, vous êtes bilingue. Et vous savez que quand on passe d'une langue à une autre, il y a des conséquences en termes de personnalité, en termes presque de ce qu'on ressent dans son propre corps. Et dans votre essai, vous parlez beaucoup de la langue du corps. Alors j'ai envie de vous demander si on peut pas faire un parallélisme, mais peut-être mieux comprendre quand, comme vous, on passe d'une langue à l'autre. Je rappelle que le français n'est pas votre langue maternelle, même si on a de la peine à l'imaginer. Donc, sur cette idée de comment on ressent corporellement une langue et comment, du coup, cette langue des camps, elle était ressentie, vécue aussi corporellement.
Bon, je ne peux pas me mettre à la place, évidemment, des survivants des camps, mais tout le monde parle d'une façon ou d'une autre de la mémoire du corps, hein, et effectivement de la mémoire des muscles, et le corps enregistre. Donc c'est aussi, effectivement, raconter cette expérience, c'est aussi effectuer une traduction à partir de... Enfin, une traduction qui se recrée dans un corps qui a retrouvé ses fonctions vitales, parce que lorsque ces écrivains prennent la plume, ils ne sont plus à l'état de musulmans ou de radiagues. Hein. Et donc, comment ça aussi, c'est une question qui est très souvent posée par Chalamov, comment, de quel droit ce corps que j'ai récupéré écrit l'histoire du corps qui était, pour reprendre l'expression de Kertész, une dépouille mortelle. Voilà. Comment
parler ? Parce que peut-être c'est la même personne à la fin.
Oui,
tout de même.
Oui, mais cette identité est questionnée en permanence. Cette identité est questionnée en permanence, et c'est ce qui peut-être aussi peut permettre la comparaison entre les deux écrivains, c'est que, mais aussi d'autres, hein, c'est que les deux se tournent. Mettent aussi, il y a ce motif de l'effacement des traces de l'expérience qui est un questionnement sur l'identité. Voilà. Alors, l'effacement de la trace, c'est l'effacement justement de ce résidu archéologique que l'on ne retrouve pas. Hein, on ne retrouve pas, on recrée, hein, comme dit Kertész. Voilà, il s'agit de recréer Auschwitz et non pas de retrouver Auschwitz sous les...
Auschwitz a disparu.
Voilà, Auschwitz a disparu, y compris dans le corps, mais et donc on ne peut pas retrouver Auschwitz comme Pompéi sous la cendre, mais on peut recréer. Et donc ça, c'est une certaine façon de... C'est un effacement de la trace au sens au sens métaphorique. Mais les deux sont aussi très préoccupés par l'effacement des traces réelles des camps dans lesquels ils ont été emprisonnés, Buchenwald et le Buchenwald que Cartès a connu et les camps de la Colima. Et je pense que là, ce qui les rapproche, et c'est peut-être, là on pourra peut-être en parler, c'est que tous les deux témoignent dans cet espace de l'Est qui a réellement pratiqué un effacement radical des traces.
On va en parler, mais juste avant ça, Luba Jorgensen, je voudrais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe du côté des revues. Et aujourd'hui, c'est avec Eric Fotorino, le directeur du magazine Le 1, que nous allons voir ce qui se passe du côté des revues, en l'occurrence de votre revue. Eric, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Avant cela, pourriez-nous dire peut-être si vous êtes un lecteur d'Imre Kertész et si cette question de la langue des camps est quelque chose qui vous a travaillé.
Je n'ai pas cette érudition qu'on a entendue qui est passionnante, mais il y a des textes bien sûr qui m'ont touché, comme Être sans destin ou Kaddish pour un enfant qui n'est pas né. C'est vrai que moi j'ai toujours été touché chez Kertész par la forme littéraire, par le style, je dirais, cette manière d'emboîter des phrases, d'y mettre des parenthèses. Moi qui n'aime pas les parenthèses en général dans les phrases, je vois comment il utilise tout ça. Et c'est vrai pour quand on a lu Camus, quand on a lu Primo Levi, quand on a lu Georges Semprun aussi, qui ont toujours eu cette relation, est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on meurt, et finalement on écrit tard, comme dans le cas de Semprun. Chez lui, chez Kertész, il y a une écriture qui est toujours là, qui traduit, j'aime bien cette idée de la traduction de quelque chose dont on disait qu'il était indicible. Il est peut-être discible à condition de le traduire.
C'est en tout cas ce que lui croyait. Vous le mettez où dans cette galaxie alors, parmi tous ces écrivains que vous avez cités?
Pour moi, il est vraiment, j'aurais pu mettre Kafka aussi, il y a quelque chose de cet ordre. Mais pour moi, il y a une sorte de pessimisme actif, c'est-à-dire que de pessimisme et en même temps, par l'écriture, il arrive à éclairer un peu cette nuit. Et je trouve que c'est, alors que Camus est plus désespéré, et puis Primo Levi, par sa vie d'une certaine manière et par sa mort, a montré où il en était du désespoir.
Alors un tout autre sujet à la une de votre hebdomadaire, Eric Fotorino, puisque vous titrez sur la question du vote à 16 ans. Alors pourquoi faudrait-il, selon certains, avancer l'âge du vote?
Alors c'est vrai que voter à 16 ans, on peut dire, mais pourquoi vouloir voter à 16 ans?
Dans la
situation qu'on connaît, avec très fort taux d'abstention en France, dans nos démocraties, en France en particulier, du vieillissement aussi de l'électorat, très très important, et puis aussi d'une forme de désocialisation des jeunes face à la politique, du fait que la politique n'entre pas à l'école, notamment, sont des éléments que d'ailleurs souligne la sociologue Anne Muxel dans le 1 cette semaine, et qui sont très intéressants, qui montrent non pas qu'il faudrait, mais que si on parle en termes de droit, c'est un droit qu'on pourrait ouvrir. À 16 ans, on peut avoir un contrat de travail, à 16 ans, on peut créer une association, à 16 ans, on peut devenir un pompier volontaire, faire un service civique. Pourquoi ne pourrait-on pas voter?
Et est-ce que les jeunes, précisément, ceux qui ont 16 ans, seraient demandeurs d'un vote plus tôt pour eux?
Alors, on pourrait dire que si c'était un droit, ce serait un droit sans désir, parce que il n'y a pas une demande vraiment des jeunes. Et quand on les interroge, on en a interrogé quelques-uns, et quand on regarde des études de sciences politiques dans ce domaine, on voit qu'en fait, eux-mêmes ont une projection sur eux, sur leur maturité ou leur absence de maturité, de formation, d'éducation, qui fait que sinon, c'est trop tôt. Alors,
ils s'estiment trop jeunes eux-mêmes.
Ils s'estiment trop jeunes, pas matures. Ça ne veut pas dire que la question politique ne les intéresse pas, au contraire. Mais c'est précisément parce qu'ils accordent encore au vote une symbolique très forte, que ça les engage, que c'est une responsabilité, qui considèrent que d'une certaine façon, ils ne sont pas prêts pour le faire aujourd'hui.
Alors, Le 1 est un magazine qui parle de tout, on le sait, pas seulement de littérature, mais qui parle bien souvent d'autres choses de façon littéraire. Et c'est le cas encore dans ce numéro, Eric?
Oui, comme toujours, vous savez, Le 1 est probablement le seul hebdomadaire français qui s'ouvre chaque semaine par une poésie que commente Louis Chevalier, que nous présente Louis Chevalier. Et là, il a choisi un poème de Solon, hein, Les années d'une vie, c'est magnifique, qui établit les âges tous les 7 ans, en disant voilà, à 7 ans, l'enfant perd ses dents et d'autres les remplacent et son esprit s'accroît. 7 ans encore se passent et son corps florissant se prépare aux amours, etc. Et en écho, il ajoute quelques vers d'Hésiode. Aux jeunes gens, les durs travaux, aux hommes mûrs, la méditation et les conseils. Et effectivement, les jeunes qui voudraient eux, prendre part à la vie politique et sociale de façon plus importante, considèrent qu'il n'y a pas, comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais malgré tout, peut-être quand on a 16 ans, on peut aussi s'investir et pas attendre justement trop longtemps avant de s'engager.
Merci beaucoup Éric Fautorino. Pour Trouver le 1, comment fait-on?
Alors Trouver le 1, c'est les kiosques, les marchands de journaux chaque semaine, et puis on peut aussi s'abonner sur le site du 1hebdo.fr.
Retour à l'entretien, Luba Jurgensen est avec nous dans ce dernier épisode d'une semaine consacrée à Imre Kertész dans la compagnie des auteurs, en l'occurrence de manière plus large à la littérature concentrationnaire à laquelle appartient, parmi d'autres, Robert Antelme.
Pourquoi avez-vous écrit L'espèce humaine ?
Eh bien, je généraliserai si vous voulez, je crois que vous faites appel ici à une définition de l'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui détermine votre vie. Par l'expérience d'une vie qui, avec un grossissement extraordinaire, nous a fait apparaître la nature de ce que nous appelons la vie normale, notre vie d'ici, et qui est fondée essentiellement sur l'exploitation du travail. Ce qui me paraît évident chez la plupart des anciens déportés, c'est le refus de cette vie-ci, telle que nous la vivons, dans la mesure où elle canonise les préjugés qui séparent les hommes, dans la mesure où elle s'entretient trop souvent dans l'euphorie par le mépris qui crée de véritables espèces d'hommes, dans la mesure, enfin, où elle bafoue les vraies valeurs qui ne sont que celles qui sont fondées sur les besoins réels de l'âme.
On parlait de la crudité de la langue des camps, et d'ailleurs le récit de Robert Antelme, L'espèce humaine, commence par ces mots: je suis allé pisser.
Oui.
C'est bien un exemple qu'il y a une communauté quand même entre tous ces écrivains. Robert Antelme, par rapport à Kertész, est-ce que vous voyez des différences, ou est-ce que sur certains points vous pourriez les relier?
Oui, moi je suis en train de dire que de me dire que c'est voilà, c'est compliqué aussi de dire qu'il y a une communauté, parce qu'il y a c'est quand même aussi des personnalités très fortes, des écritures très différentes. Donc je crois qu'il faut peut-être éviter aussi de donner l'impression qu'on est dans une voilà, qu'on les met tous dans un seul corpus. Après chacun c'est difficile de penser cette littérature sans faire des classifications, mais
est-ce que par exemple ils se lisaient entre eux? Est-ce que ils parlaient dans certains écrits les uns des autres? Est-ce que eux-mêmes avaient une volonté soit de se distancier, soit au contraire de se rapprocher?
Je pense que, alors je ne sais pas si bon, il est certain que Antelme n'avait pas lu Kertész. Hein. En plus, Antelme, voilà, ce qui les différencie.
Mais l'inverse, c'est quand même sans doute possible.
Alors ça, je crois que c'est une question qu'il aurait fallu poser effectivement à Clara Royer. Moi, dans ce que j'ai lu, bon, non, je veux dire, je ne suis pas sûre que Kertész ait lu. Il est évident qu'il l'a lu à un certain moment, mais l'avait-il lu au moment où il commençait à écrire Être sans destin? Je n'en suis pas certaine.
Alors, ce qui peut.
Voilà. Par contre, non, ce que je voulais dire, ce qui les différencie aussi, c'est le moment, la chronologie, enfin le moment où ils se mettent à écrire par rapport à leur expérience. C'est-à-dire, Robert Antelme écrit L'espèce humaine tout de suite à son retour du camp, alors que chez Kertész, ça mûrit longtemps. Et donc, on n'est pas dans la même distance par rapport à l'expérience. C'est finalement le texte de Kertész. est présenté, comment dire, on a cette distance qui est constamment montrée. Puis Kertész est très jeune au moment où il se retrouve au camp. Et dans son texte, ce regard d'enfant est justement reconstitué, lui permet d'avoir cette sorte de, d'approche naïve. Il décrit quelqu'un qui ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Ce qui était, dit-il, probablement le cas.
D'ailleurs, il découvre à chaque fois les objets, par exemple la cravache.
La cravache.
Que le SS tient sur le quai. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, à quoi ça sert?
Oui, la cravache,
effectivement...
puis la tannerie, la chambre à gaz. Il sent l'odeur de chair brûlée. On lui dit, oui, il y a une tannerie. Puis ensuite, on lui dit, mais il y a une épidémie. Et donc, chaque fois, c'est présenté comme un état du savoir qui est le sien à ce moment-là. Et donc, c'est la mise en scène de cette Weltvertrauen, de cette confiance dans le monde qu'il a en tant qu'enfant. Mais dans Être sans destin, cette confiance va être transformé en absurdité. C'est-à-dire, il convertit la confiance en absurde.
Et ce regard d'enfant, dans le sens où on découvre quelque chose qu'on n'imaginait pas avec des yeux qui pourraient être les yeux d'enfant, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez chez plusieurs écrivains?
En fait, c'est un procédé littéraire relativement répandu que les formalistes ont appelé la défamiliarisation, c'est-à-dire le fait de présenter comme quelque chose d'inconnu, prendre un objet familier et le présenter comme si on le voyait pour la première fois. Kertész se tourne vers ce procédé pour montrer le camp, justement, parce que c'est un univers totalement étrange. Donc, voilà, là, il y a effectivement une différence par rapport à Anthelme, qui était un homme mûr, engagé. Il y a un engagement chez Anthelme, alors que Kertész se retrouve là, il ne sait absolument pas pourquoi. Il ne se sent même pas juif à ce moment-là. Donc, même ça, c'est absurde.
Une autre différence, c'est que Kertész va écrire sous un régime qui est un régime d'oppression, qui est le régime communiste.
Alors ça, effectivement, il y a une grande différence entre les écrivains qui ont témoigné dans l'espace occidental, qu'on les ait entendus ou non, lus ou non, mais ils avaient la possibilité d'écrire ce qu'ils voulaient écrire. Ce n'est pas le cas des écrivains de l'Est. Donc l'Est commence en Allemagne de l'Est. Et ce n'est pas leur cas, quelle que soit l'expérience dont ils témoignent, que ce soit le goulag ou que ce soit la Shoah, à partir du moment où il s'agit spécifiquement de la Shoah, c'était complexe. Mais ce qui rend cette expérience différente aussi, et ça c'est Kertész qui en parle, Kertész qui parle justement de ces suicidés, de ces rescapés de la Shoah qui se sont suicidés, parce qu'une fois qu'on a survécu, il faut survivre à la survie. C'est une grande question des survivants. Comment, que faire avec cette vie
D'autant que quand on rentre, on vous interdit de raconter votre histoire, plus ou moins. Vous le dites à propos de Chalamov, parce que la femme de Chalamov préférerait qu'on oublie, en fait, pour leur fille, justement, pour la protéger.
Alors, les ex-détenus des goulags, à de rares exceptions près, n'avaient pas le droit de raconter leur histoire. Donc, ils étaient libres, ils étaient sortis du camp, mais ils ne pouvaient pas raconter.
Qui interdisait ?
L'establishment littéraire, la censure, le KGB, etc. Donc, ils ne pouvaient que faire circuler leurs textes sous le manteau. Ce qui est une condition fondamentalement différente. Et ce qui est intéressant, c'est que Kertész dit justement que ce qu'il a sauvé du suicide, en fait, c'est le fait que lorsqu'il s'est, après un bref passage par un bref engouement pour le communisme, il a compris qu'il s'était retrouvé du mauvais côté, à ce moment-là, Lorsqu'il comprend que le communisme est une dictature, bon, très différente certes de la dictature nazie, mais dictature tout de même, eh bien ça le renvoie à sa condition de prisonnier. Il comprend qu'il n'a pas été libéré. Voilà. Et cette condition de prisonnier est finalement, chez Kertész, la condition humaine. Donc je pense que c'est ce qui le rapproche aussi de la littérature de l'absurde. Et c'est la liberté qui a perdu. Évidemment, je schématise énormément, mais il faut être libre pour se suicider, déjà. Hein.
Parler de l'absurdité, Luba Jorgensen, et l'ombre de Kafka a plané sur toute cette semaine Kertész. Dans votre essai, vous aussi, vous le citez comme l'un des créateurs des espaces de non-être dans la littérature moderne. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces espaces de non-être, parce que traditionnellement, l'espace de non-être, c'est ailleurs que dans la vie réelle. Et avec Kertész et avec un certain nombre d'écrivains des camps, le non-être, ça devient dans la vie même, ça
oui,
devient
là, avec
sur
les camps,
Terre.
En fait, avec la, les camps et les totalitarismes qui ont installé le non-être dans la vie.
Oui, mais ça change la littérature, ça change l'histoire de la littérature.
Oui, ça change l'histoire de la littérature. En fait, disons que l'intérêt pour le non-être, il commence en fait à la fin du 19e siècle, avec les symbolismes, avec les courants modernistes.
On peut peut-être redéfinir
on va s'égarer, mais je veux dire, bon, traditionnellement, c'est vrai, dans la philosophie, comme dans la littérature, on ne peut parler que de l'être, on ne peut réfléchir que sur l'être, parce que par définition, ce qui n'est pas, il n'y a rien à en dire. Or, voilà qu'au tournant du XXe siècle, des philosophes comme des écrivains, finalement, revendiquent un espace dans la littérature, dans la philosophie, pour le non-être, pour le néant, hein, et pense qu'il faut en parler, voilà, et qu'on a quelque chose à dire sur le néant. Et ce qui fait que c'est probablement pour les... Donc Kafka, voilà, on peut le situer dans très schématiquement dans la postérité de cette pensée, de ces esthétiques du non-être, mais qu'on a déjà, voilà, d'une certaine façon chez Mallarmé. Enfin, il y a cet intérêt pour le vide, pour le blanc, pour ce qui ne peut pas être dit. Et ce qui est intéressant plutôt, c'est que pour les écrivains qui parlent des camps, il existe de cette façon des modèles littéraires vers lesquels ils peuvent se tourner et qu'ils peuvent s'approprier en leur donnant un sens nouveau. Hein. Voilà. Et ce sens nouveau, c'est justement ces modèles littéraires vont être désormais estampillés par le réel, si je puis dire, et vont être mises à l'épreuve par l'épreuve du corps.
Donc là, l'air de rien, on a quand même posé un jalon sur l'histoire de la littérature. Est-ce que cette littérature des camps, elle a changé la littérature qui vient ensuite ? C'est-à-dire, elle est une brisure dans l'histoire de la littérature.
Si on peut parler de la littérature des camps, parce que je pense qu'il y a des littératures, il y a des textes différents, encore une fois, et il faudrait regarder pour chacun de ces textes comment il a marqué l'histoire littéraire. Mais globalement, oui, je pense que tout comme ces écrivains une partie de ces écrivains se sont tournés vers des modèles qui les ont précédés et vers des ruptures littéraires qui les avaient précédés. De la même façon, eux-mêmes, à leur tour, ont engendré d'autres façons de concevoir la rupture au sein de la littérature. Certainement la littérature de l'absurde, justement. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Kertész va rencontrer cette littérature de l'absurde qui va lui permettre de trouver des mots pour écrire son livre. Mais cette littérature de l'absurde, par exemple Beckett, si on prend en gros la littérature de l'absurde des années 60, elle a certainement été travaillée elle-même par la littérature des camps.
Oui, ça, mais c'est... avant, quand on lisait Ubu ou quand on lisait Kafka, bon, oui. On pouvait trouver ça drôle. On pouvait retrouver des choses de la vie réelle.
Mais on trouve toujours ça drôle.
On trouve toujours ça drôle, mais peut-être que ce qu'apporte cette littérature des camps, c'est qu'à un moment donné, on arrête de rire parce que on voit à quel point ça peut devenir ubuesque. Je crois que le terme est employé, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est par Kertész ou par un autre, mais
je pense que c'est Rousset, c'est David Rousset qui l'emploie Rousset, voilà. dans l'univers concentrationnaire. Oui.
Donc ça donne une vérité, un poids à toute la littérature qui vient après.
C'est-à-dire qu'on refait une lecture, il y a aussi une façon de relire rétrospectivement ces textes. En les intégrant dans une histoire littéraire qui a également accueilli les récits des camps. Hein. Mais on revient finalement à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire il faut penser Kertész aussi par rapport à l'histoire de la littérature, bien sûr. Hein.
Le mot enfer, alors c'est un mot qui est très pratique pour les... Pas que pour les écrivains, d'ailleurs, un peu tout le monde. Quand on dit c'est l'enfer, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas de mots, en fait, pour décrire. Et justement, c'est un petit peu ça, l'impossibilité de décrire.
L'enfer, c'est un topos absolu dans pratiquement tous les textes qui parlent, que ce soit des camps nazis, que ce soit du goulag. Et j'imagine que si on se tournait vers d'autres littératures, on le trouverait aussi. Je pense que l'enfer, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, le mot enfer, on peut retrouver ce sens justement dans le chant d'Ulysse de Primo Levi, le chapitre de Si c'est un homme. Non, il me semble que le mot enfer, qui renvoie à une. Parce que l'enfer, c'est une construction culturelle, et le fait de parler de l'enfer, c'est-à-dire de renvoyer à une construction culturelle, permet. Au contraire, d'une certaine façon, de rapatrier cette expérience dans la culture.
C'est-à-dire qu'on trouve un mot, justement, pour expliquer l'indicible, un mot culturel qu'on connaît, un concept qu'on a apprivoisé depuis qu'on est tout petit.
Mais disons que la transmission ne se fait pas hors la culture. Hein. Il n'existe pas de... Enfin, on n'en connaît pas, en tout cas, de transmission en dehors, justement, de nos constructions culturelles, de nos schémas culturels. Et parler de l'enfer, c'est précisément donner à cette expérience aussi une dimension dans la culture. Voilà. Et lorsque Kertész parle justement de la dimension culturelle de l'Holocauste, enfin comme il
qu'est-ce
l'appelle,
qu'il veut dire par là ?
Eh bien, c'est complexe, hein, mais entre autres, il parle de ces dispositifs mythologiques qui permettent, qui font que cette expérience est intégrée dans la culture. Mais alors, évidemment, en même temps, elle, en devenant un objet culturel, elle...
Dans notre culture à nous aujourd'hui, c'est ça ?
Dans notre culture à nous aujourd'hui, bien sûr.
Hein. Et donc, en devenant un objet culturel ?
Mais en devenant un objet culturel, bien sûr, elle perd aussi une partie de sa vérité, hein, c'est certain.
Merci beaucoup, Luba Jorgensen. On voulait écouter un petit peu de poésie, peut-être, avec nous, maintenant. Holy, holy, holy. On ne vous a pas entendu, mais vous avez dit oui à 15h54 sur France Culture. C'est le moment de retrouver donc notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose de redécouvrir la poésie de Raymond Carver, dont les éditions de l'Olivier publient en ce moment les œuvres poétiques complètes. Et le mot-clé aujourd'hui, écoutez bien, c'est « survivre ».
Bonjour. Mes premiers écrits furent des poèmes. Ma première publication fut un poème. Je souhaite que sur ma tombe on grave les mots poète nouvelliste, essayiste, dans cet ordre précis, Raymond Carver. Le tome 9 des œuvres complètes parues aux éditions de l'Olivier s'appelle Poésie. Et ils disaient tous que jamais je ne trouverai ma place dans cette vie, que jamais je ne serai heureux, ni en ce monde, ni dans l'autre. Quelle clairvoyance était la leur. Ces couillons. L'enfant. Je revois l'enfant, ne l'ayant pas vu depuis 6 mois, son visage semble plus large que la dernière fois. Plus lourd, presque rude, plus semblable à celui de son père à présent. Dépourvu de gaieté, les yeux rétrécis et sans expression, n'attendre ni gentillesse ni pitié de cet enfant, ni maintenant ni jamais. Il y a quelque chose de brutal et même de cruel dans l'étreinte de sa menotte. Je le libère, ses chaussures frottent l'une contre l'autre tandis qu'il va jusqu'à la porte, qu'elle s'ouvre, qu'il pousse un cri. Son cœur est un grenier où les choses se sont entassées au long des années. Le grenier. De temps en temps, elle montre son visage aux petites fenêtres près du faîte de la maison. Le triste visage de celle qui est restée enfermée, qu'on a oubliée. Crier de souffrance, pleurer, appeler à l'aide, appeler tout bonnement, cela se fait ici en hurlant. Et c'est pourquoi en Sibérie hurlent non seulement les ours, mais encore les moineaux et les souris. On vous dira d'une souris, elle hurle forcément, elle a dû se faire attraper par un chat. Anton Tchekhov, l'amour est une région bien intéressante. Le prochain poème que j'écrirai aura du bois pour le feu en plein milieu. Du bois si suintant de résine que mon copain me laissera ses gants en disant « mêlé pour manipuler ce machin-là ». Le prochain poème comportera aussi de la nuit et toutes les étoiles de l'hémisphère occidental et une immense étendue d'eau brillant à perte de vue sous la nouvelle lune. Le prochain poème aura une chambre et un salon tout à lui, des Vélux, un sofa, une table et des chaises près de la fenêtre, un vase de violettes cueilli une heure à peine avant le déjeuner. Il y aura une lampe allumée dans le prochain poème et un âtre où des bûches de sapin gorgées de résine flambent en se consumant. Oh, le prochain poème fera des étincelles, mais il n'y aura aucune cigarette dans ce poème. Je vais me mettre à fumer la pipe. Petit supplément. Simple, une déchirure dans les nuages, le bleu du contour des montagnes, jaune foncé des champs, noir de la rivière. Qu'est-ce que je fais ici, seul et plein de remords? Je continue distraitement de manger le bol de framboise. Si j'étais mort, pense-y, me dis-je, je ne serais pas en train de les manger. Ce n'est pas si simple. C'est tout simple.
C'est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des extraits de poèmes de Raymond Carver dans La Compagnie des auteurs. Nous terminions aujourd'hui notre série consacrée au prix Nobel hongrois de littérature Imre Kertész par cet entretien avec Luba Jurgensson que je remercie. Je rappelle son essai, L'expérience concentrationnaire est-elle indicible, publié aux éditions du Rocher, c'était en 2003. Et je signale Au lieu du péril, plus récent, paru chez Verdier en 2014. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de France Culture en attendant lundi, et une série qui sera consacrée à l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Et puis demain, c'est avec Mathieu Conquet que vous avez rendez-vous. Il reçoit Jean Binaille et Richard Pignas. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jacques Azubert. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinoine, Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Dans un instant, c'est la marche des sciences. Aurélie Luneau sur France Culture.